sacrifiée pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur la femme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché.
Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin.
À toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Aquitaine, dans l'ancien Limousin, que nous allons découvrir le diocèse de Limoges, qui correspond aux deux départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. Dans cette édition, nous verrons comment le curé de la paroisse Saint-Jean en Limousin part avec ses paroissiens à la rencontre de la population, parfois isolée, grâce à un camping-car rebaptisé Camping Cœur. Et nous irons pousser la porte du patro Sainte-Élisabeth, un patronage pour les jeunes qui renaît à Aubusson, dans le département de la Creuse. Je le disais, une des particularités du diocèse de Limoges, c'est qu'il s'étend sur deux départements, la Haute-Vienne et la Creuse. On appelle d'ailleurs le Limousin la terre des saints. Saint Martial, l'apôtre de l'Aquitaine, et Saint Léonard sont les plus connus de ces grandes figures. Au cœur de vastes zones naturelles préservées, le territoire peut s'appuyer sur un héritage industriel au poids significatif, mais l'attraction de la métropole de Limoges ne compense pas la baisse démographique que continuent de connaître la Haute-Vienne et la Creuse. Pour parler du diocèse de Limoges, je reçois aujourd'hui Mgr Pierre-Antoine Bozeau. Bonjour Mgr.
Bonjour Honorine.
Je viens de donner quelques éléments sur le territoire dont vous avez la charge comme évêque de Limoges. Comment est-ce que vous pourriez justement nous parler de ce diocèse ?
Vous l'avez très bien fait, mais peut-être que j'insiste sur le fait que c'est un des quelques diocèses français qui sont bidépartementaux, ce qui marque un petit peu quand même la mission de l'Église dans ces départements, puisqu'il faut que le département où il n'y a pas la ville épiscopale se sente vraiment pleinement du diocèse de Limoges. Limoges, c'est pas la préfecture de la Creuse, et donc ça oblige à beaucoup de présence sur ce territoire de la Creuse. Et puis, vous avez évoqué les saints. Pour moi, ce qui a été très marquant, c'est que j'ai vécu l'an dernier mes premières ostensions, tous les 7 ans, ce grand événement entre Pâques et la
Toussaint. Les ostensions limousines,
c'est un peu unique hein, en France. Donc pendant 6 mois, chaque semaine, les confréries qui portent la mémoire des saints et qui conservent leurs reliques les mettent en valeur dans des grandes processions très où les gens accourent beaucoup. Et donc c'est une occasion de rencontre très très belle entre une population qui n'est pas habituellement pratiquante et même parfois assez loin de l'Église, et puis les chrétiens plus motivés. Et donc c'était un très très joyeux événement de mon diocèse qui est vraiment une marque propre. Les ostensions limousines sont assez connues. En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience avec beaucoup de joie pendant l'année dernière.
Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Mgr Pierre-Antoine Bozeau, vous êtes évêque de Limoges depuis 2017 déjà, né en 1966 à Argentan, dans l'Orne, en Normandie. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 pour le diocèse de C. Parmi vos nombreuses missions, vous avez été vicaire général du diocèse de C de 2015 à 2017 et vous êtes actuellement membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. J'aime bien citer la devise épiscopale de chaque évêque. Je trouve que ça dit quelque chose de ce qu'il animait, en tout cas au moment de son ordination. Vous avez choisi, vous, la lettre de Saint Paul, la deuxième lettre aux Corinthiens, « La charité du Christ nous presse ». Il y a peut-être cet empressement qui vous habite aujourd'hui encore, vous nous direz. J'ai lu pour l'anecdote que vous étiez un évêque qui pratiquait le covoiturage via la plateforme Blablacar en tant que chauffeur. Est-ce que c'est encore le cas et qu'est-ce que ça vous apporte ?
Alors je suis venu en train à Paris parce que je prends le train dès que possible, c'est encore meilleur pour mon bilan carbone, mais ça m'apporte de participer à justement la sauvegarde de la planète, à ma petite mesure, mais surtout et aussi ça m'apporte des rencontres formidables avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, qui sont en général assez surpris quand ils savent ce que c'est d'être conduit par un véhiculé par un évêque.
Mais ça ils donne savent encore des... ce que c'est un évêque.
Alors certains oui, vaguement, c'est un espèce de chef de l'Église. Et puis parfois ils savent, et puis parfois ils sont extrêmement curieux parce que quand je fais du covoiturage, c'est en général pour des voyages relativement longs, c'est pas pour 10 km, donc ça laisse le temps de parler, c'est très passionnant.
Je voudrais revenir pour commencer. Vous avez évoqué les ostensions limousines, mais votre diocèse, vous avez décidé de vivre cette démarche spirituelle importante, une consécration du diocèse au cœur de Jésus et Marie. Cette célébration a eu lieu le 8 décembre dernier à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. On va en voir quelques images. Qu'est-ce qui vous a conduit à décider cette consécration ?
Alors je dirais 3 choses. D'abord, c'est quelque chose qui m'habite assez profondément, la dévotion au cœur de Jésus, parce que je suis né dans le diocèse de C, vous l'avez dit tout à l'heure, à Argentan, et juste à côté d'Argentan, dans le petit village de Ry, en 1601, est né Jean-Eudes, Saint Jean-Eudes, qui est un grand apôtre du cœur de Jésus et de Marie. Et j'ai été supérieur du séminaire qu'il a fondé en 1643, j'ai été supérieur du séminaire de Caen, le séminaire Saint Jean-Eudes, et donc assez marqué par cette personnalité de Jean-Eudes, par la dévotion qu'il avait au cœur de Jésus et de Marie.
Et puis,
il parle du cœur au singulier, parce que pour lui, ils sont tellement uniques, c'est un seul cœur. Alors c'est une image l'image, hein, évidemment, on est toujours dans l'ordre de l'image quand on parle du cœur, de la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu au moment du Covid pas mal de demandes de gens me disant, mais Monseigneur, comme une espèce de solution qui aurait tout guéri, une solution magique, il faut consacrer le diocèse d'urgence au cœur de Jésus, au cœur de Marie, enfin bon, j'avais toutes les demandes possibles. Et puis au fond, j'ai choisi d'attendre cette année de plus des ostensions. Au terme de l'année des ostensions, j'avais projeté cela pour laisser le temps de préparer les diocésains. J'ai la chance d'avoir dans mon diocèse des pères eudistes, donc des disciples de Saint-Jean-Eudes, qui savent mieux que moi parler du cœur de Jésus et de Marie. Et donc il y a eu toute une pédagogie préparatoire à cette consécration. Et ça venait au terme, vous voyez, le culte des saints. Les saints, ils sont saints parce qu'ils ont aimé de tout leur cœur, et un peu comme Dieu a aimé en Jésus. Et donc il y avait quelque chose de très beau, une espèce de couronnement. Les saints, ils nous conduisent à Jésus, et le cœur, c'est ce qu'il y a de plus significatif dans la manière dont Jésus nous aime.
C'est une question un peu naïve, mais pourquoi attendre 2023 pour consacrer un diocèse au cœur de Jésus et de Marie ?
Alors, figurez-vous que mes prédécesseurs l'avaient en d'autres temps, l'avaient déjà fait, et comme dans beaucoup de diocèses, hein, donc on peut consacrer au cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, et puis recommencer plus tard. Au fond, on n'a jamais fini, et puis on a écrit une petite prière de consécration qui est inspirée de la prière de l'Ave Cœur, la prière au salut du cœur de Saint-Jean-Eudes, que j'invite les gens à redire souvent. Donc c'est une consécration du diocèse, mais ceux qui le souhaitent peuvent plus régulièrement. Vous voyez, c'est une espèce d'arrimage à ce qu'il y a de plus. De le cœur d'autrefois, c'est l'amour de Dieu pour nous. Voilà, Dieu a tant aimé le monde. Donc nous essayons d'aimer davantage. C'est comme ça que l'Église est belle. Et donc peut-être que dans mon successeur, à nouveau, consacrera le diocèse. Ce n'est pas interdit.
Je vous propose de découvrir maintenant un projet original, un projet que vous connaissez bien, celui de Saint-Jean en Limousin, une paroisse qui comprend 27 communes et 9000 habitants répartis sur environ 50 km. Le curé de la paroisse, le père Gilles Rousselet, a réfléchi à la façon de rejoindre cette population parfois isolée. Et c'est comme cela qu'est née avec les laïcs l'idée d'une tournée en camping-car, renommée depuis Camping-Cœur. Chaque vendredi après-midi, l'équipe part ainsi à la rencontre d'une zone géographique différente. Tout commence par un temps de prière et d'adoration du Saint-Sacrement avant d'aller frapper aux portes pour discuter avec les habitants qu'ils souhaitent, puis de célébrer la messe dans l'église du village. Nous les avons accompagnés un vendredi de février dans le village de Soubrebeau. Ils témoignent de leur expérience d'église en sortie.
Bonjour, monsieur.
Oui. On vient en fait dans des villages de la paroisse qui s'étend sur, je sais pas, 26 ou 27 communes pour aller à la rencontre des gens, qu'ils soient déjà paroissiens, actifs ou pas du tout. En général, c'est plutôt pas du tout.
Vatican II parle d'une église à l'écoute des joies et des peines du monde. Ben, c'est vraiment ça qu'on fait. On peut être avec quelqu'un et où on n'a pas le sentiment, l'impression, c'est qu'on n'a pas parlé de Jésus, mais en fait, on a été à l'écoute de ce que eux avaient à dire.
Ça me donne un élan, on peut dire, missionnaire.
C'est un véhicule qui vient apporter la joie de l'Évangile, parce que c'est quand même ça, hein, la source. Moi, j'étais très marqué par le pape François et la joie de l'Évangile, une église en sortie, une église qui est un hôpital de campagne. On ne peut pas rester au presbytère ou à l'église parce que les gens ne viennent plus. Hein. Et donc on va là où l'église ne va plus. C'est notre désir le plus grand, notre enthousiasme d'être une église vivante. Moi, je ne peux pas me résoudre à être au service d'une église ou d'une communauté qui est en train de mourir. Vous voyez, quand Jésus, il parle de l'Église, du royaume de Dieu, il en parle toujours en termes de croissance. Et ce qu'on espère, c'est que les gens, dans notre manière d'aller à leur rencontre, eh ben, il y a cette alchimie de la vie fraternelle qui va être le vecteur aujourd'hui d'une proposition d'entamer un chemin ensemble.
On voit cette initiative originale, mais c'est ça, manifester une audace missionnaire, c'est un de vos préoccupations ?
Oui, je suis sensible à ça, bien sûr, mais comment ne le serait-on pas? Et j'imagine que tous les évêques le sont, et puis j'espère tous les chrétiens ont au cœur ce désir de transmettre ce qui les fait vivre, en tout cas d'en parler au moins, parce que ce qu'on aime, on a envie que les autres le connaissent. Et donc, oui, c'est à la fois c'est original, et en même temps, dans la Creuse, ça a été un peu un laboratoire. Il y a plein de... Les jésuites sont assez présents, il y a eu la Mission de France, il y a eu les lazaristes, il y a eu déjà des tournées en roulotte autrefois. Donc, vous voyez, le père Gilles, là, et ses paroissiens s'inscrivent dans une tradition un peu ancienne, mais de fait, il faut aller vers les gens parce que les gens ne viennent plus à nous, sauf pour demander des baptêmes, des mariages, des obsèques, ce qui est très beau et qui est aussi un vrai lieu missionnaire. Mais là, c'est ce qu'ils font. J'ai eu la joie de participer une fois avec le père Gilles et quelques paroissiens. Il m'avait demandé l'autorisation d'installer le Saint-Sacrement dans son camping-car. Oui, c'est un camping-car un peu vintage dans des années 70 qu'il a récupéré, qui lui a pas coûté trop cher, je pense. Et donc, on fait dans le camping-car qui est mis sur la place du village un petit temps d'adoration avant d'aller à la rencontre. Et donc, c'est un moment très, très marquant et qui fait d'abord du bien aux paroissiens qui accompagnent le Père Gilles parce que, au fond, les gens se sont déshabitués de parler de Jésus à ceux qui ne demandent rien et à ceux qui ne connaissent pas.
Un autre de vos soucis, c'est aussi de vivre la communion dans l'Église entre chrétiens, quelles que soient les sensibilités. Et on le voit d'ailleurs dans votre diocèse, la variété des sensibilités, des communautés, des réalités ecclésiales qui sont présentes.
Oui, pour moi, c'est une grande joie qu'il y ait cette diversité. En même temps, c'est un vrai défi parce que les gens ont souvent l'impression, et peut-être que moi, je ne suis pas indemne de ça aussi, que leur visée, leur vision, leur manière de sentir les choses,
c'est la bonne façon.
Mmh. Et justement, la figure du Christ est tellement d'une densité telle que et d'une richesse telle que aucun ne peut prétendre, par sa manière de faire, refléter fidèlement ce que Jésus nous demande. Et donc, c'est très beau et très joyeux qu'il y ait justement beaucoup de facettes de l'Église qui essaie de refléter l'immense nombre de facettes du visage de Jésus. Et donc, ma mission d'évêque, ça c'est beaucoup d'énergie, c'est d'essayer de faire que les gens s'estiment mutuellement, enfin s'aiment vraiment, mais donc s'estiment et essaient de voir ce qu'il y a de beau, que eux ne font pas, mais qu'il y a de beau dans la manière de faire des autres. Alors ça, c'est un vrai défi.
La communion, c'est pas l'uniformité.
Non.
Une autre initiative originale, vous m'en avez parlé quand on préparait cette émission, ce sont toutes ces familles qui sont venues à la Toussaint dans la Creuse pour une expérience de famitio, la contraction entre famille et mission, pour témoigner, pour louer, pour aider aussi les communautés locales. Il y avait 300 personnes rassemblées. D'où vient cette initiative?
C'est né dans la Creuse, d'une famille qui passait par là.
Décidément, la Creuse, c'est un vrai laboratoire.
Cette émission est très creusoise, mais c'est bien. Une famille passée par là et a vu le contraste entre la pauvreté humaine et puis ce qu'ils connaissaient dans leur paroisse de grande ville. Alors ils ont dit au curé, mais on pourrait venir pendant les vacances. Ils sont venus aux vacances de la Toussaint, à quelques-uns. Il se trouve qu'ils sont venus en famille. Et puis ils ont vu la pertinence d'aller frapper aux portes ou d'aller sur les marchés avec des petits-enfants, des petites têtes blondes qui demandent à des vieux monsieur creusois un petit peu fermés si ils peuvent prier pour eux. Et ça ouvre les cœurs de manière formidable. Et du coup, ce groupe a grandi. Ils sont arrivés à 300, ils viennent de toute la France. Et une année sur deux, j'ai beaucoup de chance, puisqu'ils sont là, ils sont très fidèles. Une année sur deux, ils viennent dans le diocèse de Limoges. Et une année sur deux, ils vont dans un autre diocèse rural, parce qu'ils veulent vraiment aller dans des diocèses ruraux. Et donc, l'expérience se reproduit. Et 5 des 6 paroisses de la Creuse, cette année, avaient accueilli ce groupe amicio. Là aussi, ça fait beaucoup de bien aux paroissiens. Alors, on les a regardés au début avec un petit peu de méfiance, parce que c'est quand même les citadins qui viennent dire aux ruraux ce que c'est que l'évangélisation. Mais ils viennent dans un esprit vraiment humble, et puis avec une grande joie, un grand enthousiasme.
Et Mgr Benoît Bertrand, qui était l'invité la semaine dernière, nous disait que justement en 2025,
Famitio
viendrait dans le diocèse de Mende. C'est aussi, on l'a dit, un territoire, la Haute-Vienne et la Creuse, où cohabitent agriculteurs et néo-ruraux. Vous êtes d'ailleurs allé retrouver les agriculteurs en colère fin janvier. Vous les avez rejoints au bord d'un rond-point de Limoges Sud. De très nombreux évêques de France ont voulu manifester leur solidarité au cœur de cette nouvelle crise. Comment est-ce que vous, comme évêque, vous accompagnez ces difficultés que traverse le monde paysan?
Alors j'aimerais le faire davantage, hein, mais d'abord parce qu'il y a dans le diocèse un petit groupe qui s'appelle Mission Rurale, qui est composé d'agriculteurs de style et de métiers un peu divers, parce que tous les agriculteurs ne font pas la même chose, et avec diacres, prêtres, et puis on essaie d'être à l'écoute, d'être à l'affût. Et puis, c'est surtout, moi j'ai été très frappé en allant sur ce rond-point là, à côté de Limoges, voir les agriculteurs, comment ils étaient touchés de voir que, vous savez, ils ont beaucoup subi la grille-bashing, etc. Et tout d'un coup, ils ont vu que 90% de la population les soutenait. Et donc, ça leur a fait un bien considérable. Et ils recevaient pas de politique pour pas être récupérés, mais alors l'évêque, ils étaient très heureux et très surpris et très heureux de recevoir l'évêque. Et puis, j'ai repéré quand même que tous les anciens, ils disent, nous, on a fait de la JAC, la jeunesse agricole catholique. Donc, ils ont une espèce d'ouverture assez spontanée aux représentants de l'Église. Donc, c'était un beau moment. Ils ont besoin d'être simplement se sentir soutenus et aimés, comme tout le monde.
On va aller découvrir un patronage qui renaît à Aubusson depuis septembre 2023, dans le département de la Creuse, encore une fois. Ce patron avait d'abord été créé dans les années 1930, et puis s'était arrêté au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est le père Marie de Brice Thiomela et plusieurs paroissiens qui font revivre deux vendredis par mois ce lieu d'accueil pensé pour répondre aux besoins des jeunes chrétiens du territoire, tout en étant ouvert à tous, un espace où on prie et on joue, qui permet à chacun de continuer à grandir dans la foi ou bien de découvrir la culture chrétienne. Reportage au Patro Sainte-Élisabeth, un vendredi soir, juste avant le début du carême, avec Ophélie Marien.
Ce soir, à Aubusson, à la sortie du collège ou du lycée, des adolescents se rendent au patronage Sainte-Élisabeth.
Alors, Nathan n'est pas là, ça va Rachel ?
Ici, on prie et on joue. Le père Marie de Brice leur fait découvrir un nouveau jeu de société. Le principe, chacun incarne un disciple qui évangélise des régions du monde.
Ah bah c'est Pierre qui commence et ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, bien sûr, on grandit, on apprend à se connaître, à se côtoyer les uns les autres. Le patronage devient à la fois un lieu d'accueil, un espace ouvert pour tous, où on peut offrir à l'ensemble des jeunes un ensemble à la fois d'activités ludiques, mais aussi un espace de progression dans la foi. Et pour ceux qui ne sont pas forcément ou nécessairement chrétiens, à l'intérieur du patro, ils pourront découvrir au moins une culture chrétienne.
Place ensuite au goûter, préparé par des paroissiens pour les jeunes. Ils sont une quinzaine à venir, deux vendredis soirs par mois.
C'est déjà pour être avec... être avec Jésus et être avec tous les jeunes, être assemblés, pouvoir faire différentes activités ensemble.
Marie de Brice m'a conseillé de venir pour justement faire grandir la foi. Le fait d'être avec les autres, ça fait grandir la foi et voilà.
J'aime beaucoup l'ambiance ici tous les vendredis soirs quand on se retrouve. J'aime. Il y a cette notion de partage aussi que j'aime beaucoup.
Avec une amie à moi, on a invité une amie qui n'était pas chrétienne. Et l'ambiance lui avait bien plu, alors qu'elle ne croit pas du tout en Dieu, mais ça lui avait plu et du coup on avait été contentes.
Ici, pas de catéchisme, mais à chaque rencontre, le père Marie de Brice et des paroissiens proposent un enseignement autour de la culture chrétienne. Ce soir, le topo est centré sur le carême.
C'est vraiment un itinéraire où nous sommes appelés chacun à apporter du sien, en suivant l'exemple de Jésus.
Dans cette paroisse, à l'image de la Creuse, un territoire vaste mais à la population réduite, la renaissance du patronage rend un vrai service aux familles, comme nous l'expliquent ses parents.
On élève nos enfants, on veut le mieux pour eux et c'est important qu'ils aient de bons repères. Et les enfants, ça leur permet aussi, dans ce territoire qui est isolé, on est souvent isolé, ça permet de se rencontrer et passer un moment agréable.
Sur le secteur, il n'y a pas énormément de jeunes qui se sentent effectivement appelés par la religion. Donc effectivement, il faut absolument créer un espace où on puisse les accueillir.
Depuis une dizaine d'années, les patronages connaissent un regain d'intérêt. Ces lieux de sociabilité et d'éducation populaire qui affirment leur spécificité chrétienne attirent jeunes et parents.
C'est plein d'espérance de voir cette renaissance d'un patronage dans ce territoire.
Oui, c'est très beau, puis c'est très courageux, parce que le père Marie de Brice a été ordonné il n'y a pas très longtemps. Il est arrivé là dans son premier ministère comme vicaire. Et c'est une très vaste paroisse, 64 communes, hein, la paroisse de Aubusson-Feltin. et donc de recréer ça avec des paroissiens qui prennent avec lui vraiment les choses très à cœur. C'est très beau, ça me fait très plaisir. C'est un lieu où, vous voyez, déjà mettre un jeune prêtre ici, ça n'allait pas de soi pour moi, parce qu'il y a des besoins partout et on met plutôt les jeunes prêtres là où il y a beaucoup de jeunes. Donc là, c'est une zone quand même qui est démographiquement assez pauvre. Et donc, c'est aussi que ces territoires se sentent pas complètement abandonnés. Beaucoup les abandonnent, il faut que l'Église soit là quand on peut, donc je suis très heureux de cela.
Dans le diocèse, comment est-ce que vous réfléchissez à cette articulation entre paroisse et territoire? Il y a une réflexion en cours.
Oui, il y a une réflexion en cours, comme dans beaucoup de diocèses. C'est-à-dire, c'est un défi terrible, mais passionnant. Et donc, il y a une équipe synodale actuellement qui, jusqu'à novembre 2025, est chargée d'essayer de proposer une autre manière d'habiter le territoire, parce que l'actuel, qui est hérité du synode de 1985, qui comporte donc 30 paroisses, n'est plus tout à fait adapté. D'abord, parce qu'une paroisse, c'est un curé, eh bien, je n'ai plus 30 curés. Donc, il y a 45 prêtres dans le diocèse en activité, il y en a une soixantaine en tout, mais 30 curés, c'est difficile à trouver. Donc il faut organiser autrement et puis trouver la place des laïcs de manière ajustée dans tout cela. Donc c'est en cours de réflexion.
On suivra ça, vous m'avez dit 2025, l'aboutissement de cette réflexion. Je vous propose, Mgr Pierre-Antoine Bozo, de partir à l'écoute des questions de terrain. Et on a une première question de Pierre, qui est retraité.
Bonjour. Je souhaiterais savoir simplement comment on fait pour devenir évêque.
On ne fait rien, justement. on dit oui au pape qui vous appelle. Et le pape lui-même, il est conseillé par ceux qui ont mission pour cela, le nonce apostolique en particulier. Donc on ne candidate pas et on exerce son ministère de prêtre. Et un jour, de manière très surprenante, on est appelé. En tout cas, ça a été mon cas, sans s'y attendre du tout.
Une autre question de Roselyne, qui est interne en médecine générale.
Bonjour Mgr Bozo, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous apporter un peu plus d'explications sur la déclaration du pape concernant les couples en situation irrégulière? Merci à vous.
Merci Roselyne, c'est une déclaration de la congrégation du dicastère pour la doctrine de la foi du cardinal Fernandez, mais signée par le pape. Je pensais, en pensant à cette déclaration, que le pape aux jeunes à Cracovie, il aurait dit de mettre la pagaille dans les paroisses, dans les diocèses. Peut-être c'est un peu la méthode du pape, il met lui-même un peu la pagaille dans l'Église, donc il y a ce texte qui est paru, qui a mis un peu de pagaille, qui est un peu compliqué à gérer. Au fond, cette question des couples en situation irrégulière, que ce soit des couples divorcés, remariés, ou des personnes homosexuelles, c'est une question extrêmement sensible, souvent marquée par pas mal de souffrances, de difficultés. Et donc je pense qu'au fond, ce qui est bien dans cette pagaille, c'est que ça oblige tout le monde à réfléchir. À la fois ceux qui pensent qu'il suffit de dire que la loi, c'est la loi, et que dans l'Église, on ne fait rien pour les personnes homosexuelles, puisque leur situation est irrégulière, ou les couples divorcés, remariés, et c'est une forme de pharisaïsme. Voilà, il faut du coup être attentif à savoir comment on les accueille le mieux possible. Et puis en même temps, ce texte, cette déclaration, elle redit que l'unique manière de vivre publiquement dans la vie commune, dans le mariage, c'est un homme et une femme qui s'engagent pour toujours et qui sont ouverts à la vie. Donc c'est un texte qui recadre aussi et qui dit des choses difficiles à entendre un peu pour tout le monde, mais ça nous oblige à aller plus loin. Alors concrètement, au fond, si on regarde Fiducia Supplicans, éclairé par le communiqué de presse du 4 janvier de la même déclaration du même dicastère pour la doctrine de la foi, on voit que finalement, ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on accueille les gens qui viennent nous demander de prier pour eux et on les bénit. Quand on le fait à la sortie de la messe ou quand on le fait dans un lieu de pèlerinage, c'est ça à quoi invite Fiducia Supplicans. Eh bien, nous continuons de le faire, c'est-à-dire de montrer à tout le monde qu'il est aimé par Dieu.
On a une dernière question de Jean-François, qui est retraité et récemment confirmé.
Bonjour Monseigneur. Je suis un jeune confirmé et quelqu'un qui recommence à revenir à l'Église. Je voudrais vous demander s'il serait possible d'avoir un catéchuménat pour les adultes, c'est-à-dire quelque chose qui soit abordable, qui puisse être comme une sorte d'évangélisation, justement, pour ceux qui voudraient retourner vers l'Église et qui voudraient approfondir leur foi.
Alors, je me souviens de Jean-François et de l'avoir confirmé il n'y a pas si longtemps, et je pense que lui-même, il a dû rencontrer quelqu'un ou un lieu, une paroisse pour l'aider dans ce chemin. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais peut-être que la question de Jean-François me fait comprendre que ce n'est pas suffisamment diffusé. Donc, il faut que nous soyons davantage audacieux pour proposer à ceux qui s'interrogent la manière de revenir, d'entendre parler de l'Évangile. Donc, c'est un beau défi.
Nous entrons dans la Semaine Sainte, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo. Nous sommes diffusés ce lundi saint. Dans quel état intérieur est-ce que vous nous invitez à vivre cette montée vers Pâques ?
En accueillant peut-être les très très grandes richesses de la liturgie. C'est une semaine riche pour la liturgie, mais c'est très beau comme à la fois les prières, les oraisons, les textes bibliques qui nous sont donnés cette semaine-là nous aident à nous associer, à nous approcher de Jésus dans les différents moments de cette grande semaine de notre vie chrétienne, c'est vraiment le sommet de l'année. Donc il ne faut pas lésiner, il faut y aller de tout son cœur, mais simplement ouvrir les mains à ce que l'Église nous donne. Et il y a cette longue et grande et belle tradition, ce trésor de la liturgie qui nous aide vraiment à être auprès de Jésus à ces moments si importants.
Merci beaucoup, Mgr Pierre-Antoine Bozo, d'être venu ici sur le plateau de la Vie des Diocèses pour en savoir plus sur l'Église catholique en Haute-Vienne et dans la Creuse. Le site internet, c'est diocèse-limoges.fr. Vous le savez, cette émission est à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Sure. République démocratique du Congo est le deuxième plus vaste pays d'Afrique. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Au nord du pays s'étend l'un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. À l'est, des collines, des grands lacs, mais aussi des volcans bordent le grand rift est-africain. Grand comme une fois et demie le Québec, quatre fois la France, 80 fois la Belgique, la République démocratique du Congo est l'un des géants de l'Afrique. Après deux guerres civiles, le pays connaît une forte instabilité. En effet, depuis 2016, plusieurs milices règnent en maître. Dotée d'importantes richesses naturelles, l'économie du pays repose essentiellement sur l'agriculture et l'exploitation minière. Et pourtant, la République démocratique du Congo est le 9e pays le plus pauvre du monde, avec un revenu mensuel moyen par habitant de 44 dollars. Présente dans le pays depuis le 15e siècle, l'Église catholique occupe aujourd'hui une place importante en République démocratique du Congo. En effet, elle compte environ 35 millions de fidèles, soit près de la moitié de la population. Près de 60% des écoles primaires et des hôpitaux sont gérés par des congrégations religieuses catholiques.
Dans quelques instants, ça va être l'avion du pape salué par la fanfare.
Le pape Jean-Paul II a effectué une visite dans l'archidiocèse de Kisangani où il a passé 2 jours, soit les 5 et les 6 mai. 1980.
Dans notre souvenir reconnaissant et dans la prière que nous élevons, nous voyons un point de départ.
C'était pour nous un grand honneur, mais beaucoup de bénédictions, le fait d'accueillir le pape dans notre terre et particulièrement le pape venait en même temps aussi honorer Sœur Anwarite, Marie-Clémentine et Isidore Bakanja, le deuxième bienheureux de l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Et à ce moment-là, la cause d'Isidore Bakanja était encore en étude. Sa béatification interviendra quelques années plus tard, plus précisément en 1994.
Je parle aussi d'un catéchiste zaïrois. Isidore Bakanja, un vrai Zaïrois, un vrai chrétien. Après avoir donné tout son temps libre à l'évangélisation de ses frères, comme catéchiste, il n'hésite pas à offrir sa vie à son Dieu, fort du courage qu'il puisait dans sa foi et dans la récitation fidèle du rosaire. Ça, c'est l'hommage que lui fait cette grande figure, Saint Jean-Paul II, à l'époque.
Isidore Bakanja, c'est une figure importante dans la mesure où il est compté parmi les bienheureux, la bienheureuse Anwarite et le bienheureux Isidore Bakanja. Pour nous, ça fait une grande fierté. Anwarite, une religieuse, et Bakanja, Isidore, un laïc. Cela montre que l'appel à la sainteté, la vocation à la sainteté n'est pas seulement l'affaire des consacrés, mais plutôt l'affaire de tous les baptisés.
Le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, Otto von Bismarck, le chancelier de l'Empire allemand, et le premier ministre français Jules Ferry organisent la conférence de Berlin qui réunit 14 gouvernements dont aucun n'est africain. La rivalité entre les puissances européennes en Afrique centrale demeure la cause principale de cette conférence. À l'origine organisée pour assurer la liberté de commerce et de navigation sur les grands fleuves africains que sont le fleuve Niger et le fleuve Congo, Il était aussi question de faire cesser la traite musulmane, l'esclavage, et d'apporter ainsi la soi-disant civilisation sur le continent africain. À l'issue de ces 3 mois et demi, l'acte général de la conférence définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo, territoire considéré jusqu'alors comme terra nullius, terre sans maître. À cette époque, le Congo est l'un des rares espaces de la planète encore libre de toute ingérence européenne. L'acte général de la conférence reconnaît à Léopold II, roi des Belges, la possession à titre privé du pays qui sera baptisé État indépendant du Congo.
Nous sommes dans un contexte de la colonisation. Donc nous sommes à l'époque de l'État libre du Congo, qui est la propriété privée du roi Léopold II, roi belge. Le roi prend le pays comme sa propriété privée et exploite en utilisant les sociétés qui sont à son service pour exploiter l'ivoire, les caoutchoucs, les minerais précieux, et en utilisant les indigènes, les autochtones, sans tenir compte de la dignité de la personne humaine ou de leur liberté ou du respect de la personne humaine. Eux-mêmes, les autochtones, ne bénéficient pas de cette exploitation. Ces atrocités ont fait plus de 10 millions de morts, et on dira plus de 20 ans.
Les richesses abondantes du Congo incitent la couronne belge et les compagnies concessionnaires à entreprendre l'exploitation brutale de sa population. La principale entreprise productrice de caoutchouc, fondée par des capitaux belges et britanniques, a obtenu en 1892 une concession gigantesque de 8 millions d'hectares dans le nord du Congo, et ce pour 60 ans. Son but, exploiter l'ivoire, le caoutchouc, ainsi que toute autre marchandise exploitable. C'est dans ce contexte colonial qu'évolue Isidore Bakanja. Né en 1885 à Bokandela, près de Bandaka, dans la province de l'Équateur, il travaille en tant que domestique pour une société belge chargée d'exploiter le caoutchouc et l'ivoire. En 1906, il est baptisé chez les pères trappistes.
Les missionnaires trappistes développent une spiritualité particulière en ce qui concerne la dévotion mariale. Ainsi, le 6 mai, Bakanja a eu le baptême, et le jour même de son baptême, il a reçu l'escapulaire portant l'image de la bienheureuse Vierge Marie du Carmel, du Mont Carmel.
André Van Cotter, anticlérical notoire, le patron d'Isidore Bakanja, ne tolère ni les signes religieux qu'arbore son domestique, notamment le scapulaire qu'il porte au cou, ni l'influence qu'il a sur les autres travailleurs.
Van Cotter, quand on a fait les enquêtes, on verra qu'il était anticlérical. Et dans cette partie, cette zone, vu que le missionnaire était en train d'interpeller, n'était pas d'accord avec la pratique, on ne produisait pas la quantité qu'il fallait de coton, de caoutchouc, on te coupait la main. Il y a ceux qui interpellaient, ça a créé l'anticléricalisme. Et d'autres laissaient faire. Et l'autre disait, bon, le royaume de Dieu, c'est au ciel. Donc ici, vous souffrez, mais c'est au ciel, vous aurez le bonheur. Ce qui fait que, surtout en Afrique du Sud, en Afrique australe, en Afrique, il y a des églises indépendantes. Et c'était comme une réaction à cela. Pour donner l'évangile qui est venu, ça c'est pour les Blancs, ça c'est pour les colons. Alors nous, on devait chercher notre propre église. C'est ça aussi... La réponse, la réaction à certaines attitudes ou abus.
Bakanja avait une dévotion particulière vis-à-vis de la Vierge Marie depuis qu'il a reçu le baptême, et il ne cessait de porter ses deux signes sur lui autour de son cou.
Mais cela n'a pas plu à son patron, qui va le faire fouetter plusieurs fois et l'interpeller pour lui dire d'enlever son scapulaire. Il a dit, vous m'avez demandé d'enlever la Vierge Marie. Comment est-ce que c'est possible? Et lui disait, avec ta prière, tu vas faire fuir tous les travailleurs ici. Tu vas éveiller leur conscience, tout ça.
Suite à cela, Isidore Bakanja sera persécuté de nombreuses fois. Il subit de nombreux sévices corporels jusqu'au jour où il est battu de près de 200 coups de chicotte, un fouet en peau d'éléphant percé de deux clous. Après 6 mois de souffrance, il meurt d'une septicémie le 15 août 1909. Avant sa mort, il confie à un missionnaire avoir pardonné son oppresseur. 3 ans plus tard, suite à une enquête, Van Cotter sera condamné à 2 ans de prison. Le corps d'Isidore Bakanja repose désormais à Bokoté.
Aujourd'hui, Bokoté est difficile d'accès par route. Par contre, par la voie fluviale, on peut facilement atteindre Bokoté. Le Premier ministre, accompagné d'une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, s'est rendu à Bokoté pour poser la première pierre en vue de la construction du sanctuaire à l'honneur de le bienheureux Isidore Bakanja. Nous pensons que c'était un bon début pour nous, pour offrir un cadre favorable qui permette un pèlerinage au niveau local, particulièrement au niveau national, pourquoi pas au niveau régional.
Les combats et exodes forcés de la Seconde Guerre du Congo ont eu de lourdes conséquences sur la nature et la forêt tropicale qui constituaient autrefois l'essentiel du paysage congolais. Les zones de conservation ne couvrent que 11% du pays. L'extraction du cuivre, du cobalt, du diamant, ainsi que celle du bois, détruit et menace encore la forêt. La déforestation est intense en République démocratique du Congo. Selon Greenpeace, le pays pourrait perdre 40% de ses forêts avant 2050. La forêt humide est aussi menacée par des projets d'hydroélectricité.
Il y a un nonce apostolique qui était venu ici. Il me dit, Monseigneur Maroy, je pense que la grande réserve du monde se trouve dans votre pays. Quand il a vu les eaux du lac Tanganyika avec tout ce qu'il y a comme richesse, le lac Kivu avec sa variété aussi, quand il a vu toute la vallée avec la production qu'on peut y avoir, il dit non, ici vous avez la grande réserve du monde. Mais est-ce que le monde nous permet de le mettre en valeur pour que ça profite à tout le monde? Et c'est ça la grande question. Parce que pour moi, je suis peiné de voir que le monde installe plus ou moins les petites guerres, les insécurités permanentes ici, au lieu de focaliser les efforts positifs pour construire, en vue de nourrir, en vue d'aider l'humanité à avoir un espace pour tous. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire.
Nous sommes fatigués de voir les cadavres dans les rues. La guerre est à la base des viols de nos sœurs et de nos mères. Nos enfants perdent de plus en plus leur sourire. Les guerres provoquent la fermeture des écoles pour que nos enfants n'évoluent pas. Les guerres freinent le développement de nos pays. Les guerres détruisent nos hôpitaux, nos usines, nos entreprises et augmentent le nombre de chômeurs dans nos pays. La guerre détruit nos écoles, nos universités pour que nos pays se remplissent d'analphabètes. Afrique, qu'as-tu fait de ton sourire? Afrique, rappelle-toi, tu as une mission spéciale parmi les nations, une vocation personnelle. Tu as une note à donner dans les concerts du monde.
Je me retrouve de temps en temps pour jouer un peu à mes guitares. Je m'intéresse beaucoup à la musique. Et depuis le toit parental, devenu prêtre, je continue à chanter, à composer les chansons et surtout pour des questions qui touchent la vie sociale, questions qui touchent à la paix, et la paix dans nos nations, la paix en Afrique et dans le monde. Et en même temps, je m'intéresse beaucoup plus à faire la promotion de la spiritualité du Carmel, c'est-à-dire faire connaître la pensée de nos saints parents par la chanson. Afrika Terema, c'est un organe de paix. Elle se veut une campagne de sensibilisation, d'éveil de conscience pour inviter le peuple d'Afrique à jouer un rôle important dans la préservation et la promotion de paix.
Il s'allie aux personnes et aux structures qui œuvrent pour la concorde et la paix entre les peuples et les nations. Alors, le but de Afrika Terema est la promotion, la consolidation de la paix et de l'unité des peuples.
Nous sommes en train de réfléchir sur un grand projet qui consiste à sortir les enfants dans les sites miniers d'exploitation artisanale. Ici, en province du Sud Kivu, il y a beaucoup de jeunes filles abusées sexuellement dans ces différents sites. Et des familles nombreuses qui vivent dans ces sites-là, de sorte que si on ne prend pas vraiment soin de les encadrer, ces enfants n'auront aucun avenir.
Comme l'aimait à le souligner le pape Jean-Paul II, à l'image de Jean de la Croix, les Carmes Deschaux doivent être des guides et des maîtres pour les hommes qui ont soif de communion avec Dieu. Chaque Carme Deschaux, chaque communauté, l'ordre tout entier, est appelé à incarner les traits qui resplendissent dans la vie. L'austérité, l'intimité avec Dieu, la prière intense, la fraternité évangélique, le progrès de l'oraison et la perfection chrétienne.
Afrika Terema a dans ses objectifs la préoccupation aussi majeure d'encadrer la jeunesse. Cette jeunesse, c'est elle qui gère l'Afrique de demain, qui gère l'humanité de demain. Alors, elle doit être consciente. Nous avons un programme d'encadrement et de la prise de conscience pour que les jeunes puissent se rendre compte que l'Afrique de demain, c'est eux.
Nous sommes la chorale Notre-Dame du Mont-Carmel. Nous sommes une chorale de la communauté Saint-Jean de la Croix, ici chez les Pères Carmes. Nous œuvrons ici depuis 2010. On s'était rendu compte qu'il n'y avait pas la chorale ici pour animer la messe. Et comme vous le savez, une messe sans chorale, parfois ici chez nous, ça ne marche pas. Et c'est alors que nous avons pris cette initiative-là d'accompagner les chrétiens à travers le ministère des chants.
Dans notre ordre, il y a les carmélites déchaussés, nous sommes les carmes déchaussés, et aussi en troisième position, nos frères et nos sœurs qui vivent aussi notre spiritualité en étant laïcs. On partage notre spiritualité, on prie ensemble avec eux, c'est la raison pour laquelle vous les voyez ici. Le matin, au Lode, ils sont avec nous, le soir, au Vêpres, ils sont encore avec nous.
Carme séculier, il y a des étapes.
Nous devons faire la formation 3 ans. Nous avons aimé la spiritualité de nos pères. On peut prendre Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, surtout la prière et la prière silencieuse.
Ça, c'est la couleur d'abord de la fraternité carmélitaine, selon qu'on soit carme laïque ou carme consacré. C'est ça la couleur. C'est la Vierge Marie qui avait donné cette tenue que nous appelons scapulaire.
Ce ne sont pas seulement nous et nos frères qui portent, on a initié même nos laïcs, n'est-ce pas, les chrétiens qui viennent aussi prier, portent, connaissent ce que c'est le scapulaire.
Puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il en est mesure de sauver d'une manière définitive ce qui s'est passé.
Fils, Saint-Esprit.
Amen.
Loué soit Jésus-Christ.
À jamais.
Dans la dimension du travail chez nous, au Carmel, et des rigueurs. Alors nous devons travailler pour nous prendre en charge. C'est que nous avons le jardin et le potager. Nous avons aussi la menuiserie. Nous débrouillons un peu pour vivre et surtout ne pas être à la charge de personnes. Je joue même au synthétiseur.
Oui.
Oh, très bien.
Très bien là. C'est un moment ambiance.
J'ai beaucoup de ça.
Et avec la menuiserie, ça nous permet de fabriquer des meubles pour nous-mêmes. Par exemple, la table, les chaises ont été fabriquées dans notre menuiserie.
Par rapport à ce jour de...
Quand nous partageons les repas communautaires, on prie ensemble. Et c'est pour moi le moment où chacun s'exprime librement. Et puis on partage aussi ensemble ses difficultés. Et on met tout ce qu'on a comme besoin entre les mains du prière. Alors il nous oriente, il nous exhorte par rapport aux principes carmélitains. Voilà. C'est ça même la dimension idéale de notre vie, la vie communautaire. La vie austère, on partage notre dimension communautaire.
Carmélitaine.
Carmélitaine, voilà. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est un expérimenté, non? Il est considéré pour nous comme une source. On va de temps en temps, bon, surtout qu'il était mon formateur, moi, quand j'ai commencé le Carmel. Alors je le considère comme une source, un réservoir dans lequel je vais aller régulièrement pour puiser les principes carmélitains.
Mais je vais jusqu'au petit matin, je n'en ai pas. Ensuite, ils vont enlever la paix. Ils vont dire que le père n'aime pas la prière. Je suis sorti, j'étais fâché, mais Dieu m'a aidé à